Qu'est-ce qui est le plus important quand on est invité à une grande réception, que ce soit un déjeuner ou un dîner? Est-ce que c'est de passer un bon moment, de faire un bon repas, peut-être très copieux, très riche ou simplement équilibré? Est-ce que c'est simplement d'y avoir été invité? Et quand c'est une grande réception, ça peut être une marque de reconnaissance sociale, ou lorsque c'est plus intime, au moins un signe d'amitié? Est-ce que ce sont les autres invités, les autres convives? Cela peut être des personnes qu'on rencontre pour la première fois, qu'on découvre, des personnes nouvelles, passionnantes, ou alors des gens qu'on connaît déjà mais qu'on retrouve, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le plus important n'est-il pas la personne qui nous invite, le maître du repas, le maître des lieux, notre hôte? Celui qui nous invite et dont on veut naturellement se rapprocher. Une expression qui dit se faire bien voir, elle est dépréciée, mais il y a quelque chose de tout à fait juste. Et on peut se poser la question pour la messe. On dit à juste titre que c'est un sacrifice, c'est le sacrifice du Christ. Oui, c'est un sacrifice et un repas, c'est le repas du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. L'évangile qu'on vient d'entendre comporte trois repas, trois types de repas différents. Il y a d'abord le contexte, c'est le repas de sabbat auquel Jésus a été convié. Et ensuite le repas de noces dont il parle dans la première parabole. Et puis dans la deuxième parabole, c'est neutre, c'est générique, c'est un déjeuner ou un dîner que nous pourrions donner à notre tour. Voyez la forme trinitaire de ces repas. Le repas de sabbat, il renvoie au Père. C'est ce que le sabbat honore, commémore chaque semaine. Les noces, ce sont bien sûr pour nous, symboliquement, les noces de son Fils. Et c'est l'Esprit Saint qui agit en celui qui donne. L'Esprit Saint qui est donné, qui nous permet de donner à notre tour. Et c'est très exactement ce que nous voudrions vivre. Honorer Dieu dans sa création. Le reconnaître en toute personne, en chaque être humain. Et se laisser conduire toujours davantage par l'Esprit Saint. Je voudrais, en ce temps de pré-rentrée, vous livrer quelques réflexions un peu disparates, toujours un peu en mode d'été, en mode repas d'été, entrée, plat, fromage, dessert. Une première réflexion, qui peut être d'ailleurs une première résolution de rentrée pour pouvoir affronter les difficultés qu'on nous annonce, pourrait être justement comme résolution de rentrée de fortifier notre vie dans ces trois dimensions du temps. Trois dimensions du temps qui ne sont pas le passé, le présent et l'avenir, qui sont le Père, le lien au Père dans le respect de la création, dans le temps qui nous est donné, celui de Dieu, dans le Christ, pour le chercher à le connaître chaque jour davantage, la joie de le connaître et de pouvoir nous unir à lui, et avec l'Esprit Saint dans la vie quotidienne. Le temps est supérieur à l'espace, dit régulièrement le pape François. Oui, s'il est sanctifié. Et c'est ce que nous cherchons à vivre par la messe du dimanche, par les grandes fêtes qui rythment tout le long de l'année. Et dans le trimestre qui se prépare, nous avons déjà un certain nombre de rendez-vous. Le premier rendez-vous de rentrée, ce sera le 14 septembre, la fête de la Croix Glorieuse. Le lendemain, la fête de Notre-Dame des Douleurs, qui est également Notre-Dame de l'Espérance. Ensuite, il y a un certain nombre de saints et de saintes que nous honorons. Début octobre, Sainte Thérèse et Saint François, et puis nous irons jusqu'à la Toussaint. Et puis ensuite, il y aura la préparation de Noël. Pour programmer, pour avoir une vision du trimestre qui vient, pour programmer l'année, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de quelques fonctionnalités, d'une approche purement fonctionnelle. Nous avons besoin de quelque chose de plus structuré, de plus intense, de plus grand. Et ces rendez-vous religieux, ils nous engagent tout entier, toute notre vie. Si nous voulons vraiment rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû. C'est la définition du croyant. Qu'est-ce que c'est un croyant? C'est celui qui rend à Dieu l'hommage, l'honneur qui lui est dû. Dans toute sa vie, dans tout ce qu'il est, saint Paul dit même, glorifiez Dieu dans votre corps. Il y a eu un nombre d'enterrements ici pendant cet été, principalement de personnes très âgées, encore plus fatiguées par la chaleur, la canicule. Et lors d'un de ses enterrements, c'était quasiment centenaire. Tout d'un coup, je lève les yeux, je vois tous les petits-enfants, il y avait même des arrières, mais très nombreux, une grande famille. Et tout d'un coup, en regardant les petits-enfants, certains étaient mariés, d'autres allaient se marier, je me suis dit, mais est-ce qu'ils auraient aimé qu'on vienne habiller comme ça leur mariage? Je me dis, non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour vous dire, c'est pire qu'un dimanche d'été. J'ai même imaginé un moment, je me suis dit, imaginons la grand-mère qui soulève le couvert du cercueil et qui dit, mes chéris, c'est comme ça que vous venez pour mes noces éternelles? Quel sens quand même de l'importance, de la grandeur de ce qu'on célèbre? Il y a une parabole dans l'évangile de saint Matthieu où à la fin le roi dit à un des invités, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Alors, on peut replonger dans ces repas de la Bible, de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il y a une question qui revient aujourd'hui fréquemment, c'est de savoir comment ça se passait. Est-ce que hommes et femmes étaient mélangés ou séparés? Les femmes en étaient-elles d'ailleurs exclues? J'ai lu un ensemble d'études sur le sujet. La seule conviction que j'en ai gardée, c'est qu'effectivement, il y avait une mixité que ces repas ignoraient, mais c'est une mixité sociale. La séparation n'était pas entre hommes et femmes. C'était entre riches et pauvres. C'est la mixité sociale qu'ils ignoraient. Et c'est ce que le Christ est venu bouleverser. C'est ça être catholique. Et nous avons tellement de mal à le comprendre, nous avons toujours le cœur aussi dur, si lent à croire. J'ai vu cet été un documentaire remarquable sur le procès que les joueuses américaines de football avaient fait à leur fédération. Pourquoi ? Pour obtenir le même traitement que les hommes. C'était audacieux et c'était juste, avec un slogan fort, « Equal pay !» Pour le reprendre et le décliner dans toutes les langues et dans toutes les situations, on peut toujours ajouter « à travail égal ». Mais justice, un peu de justice, c'est une demande juste. Chaque avancée est plus fort que tout, c'est symbolique. Ça contribue au bien commun, à l'égalité entre nous, ça doit se généraliser. Et c'est un combat contre l'injustice et contre les préjugés qui nous implique tous. Et plus particulièrement nous dans l'Église, d'autant plus qu'on fait régulièrement grief à l'Église d'avoir contribué, participé ou contribué à ces inégalités, alors que même ce que nous célébrons, le repas eucharistique, tous les repas reposent sur une juste collaboration de l'homme et de la femme. C'est particulièrement vrai pour le repas de sabbat en famille. C'est vrai pour les noces, l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage. C'est vrai pour l'attention à donner l'invitation aux pauvres et aux malades, hommes ou femmes. Alors il y a un point de butée, un reproche qui revient sans cesse, à savoir que le célébrant de la messe, le prêtre est un homme. On dit, mais où est l'égalité? C'est pas le prêtre le maître du repas. C'est Dieu. Le prêtre, il vient représenter Jésus-Christ pour pouvoir actualiser cet événement, justement du don de sa vie, en prenant du pain et du vin pour le rendre, justement, son sacrifice, ce sacrifice que nous avons, pour le rendre actuel, présent. Il y a un homme qui représente le prêtre, il y a du pain et du vin. C'est comme si le riz, ça s'est posé d'ailleurs la question dans l'histoire, à un certain moment, c'est comme si le riz disait au pain, « Ah ben non, mais moi aussi je voudrais être consacré. » Il y a une différence très forte et que nous devons pouvoir comprendre entre la parole humaine. On a toujours fait comme ça. Ça, c'est humain. Et la parole divine, vous ferez cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Et on peut ajouter simplement qu'à la messe, il y a toujours une femme présente dans le cœur, particulièrement visible ici, c'est la Vierge Marie. Alors, quelle aurait été l'excuse des invités de la parabole si on leur avait dit, s'ils avaient dû se justifier de chercher les meilleures places, de vouloir se placer? Vous savez très bien quelle aurait été leur réponse, elle est de tous les temps. On entend ça cesse, ils auraient dit, « Oh ben, si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. » Ben oui, je l'ai fait, mais sinon, ça aurait été quelqu'un d'autre. Voilà ce que le Christ nous demande de corriger, est venu lui-même corriger. Il nous demande de le suivre, lui, pas le monde, pas le troupeau, lui, le pasteur. C'est lui que nous devons suivre. Lorsqu'il viendra dans la gloire, le texte ici dit « à la résurrection des justes », souvenez-vous de la parabole de saint Matthieu, « il séparera les bons et les méchants, les brebis des boucs ».
Les boucs.
Quand même, l'image est claire. Il faut quand même que chacun s'examine sur sa conception et sa pratique de l'égalité. Commencer des hommes et des femmes. Voilà un bon programme, déjà, pour cette pré-rentrée. Plus de justice. Plus de justice, comment ? Par plus d'humilité. C'est pour ça que là, l'Église a choisi cette première lecture. Saint Paul dit « Ayez assez d'humilité pour considérer les autres comme supérieurs à vous-même. » Alors vous dites « Ah ben non, ils ne sont pas supérieurs. » Si, il faut les considérer comme supérieurs à nous-mêmes, c'est une question de balistique. C'est la seule façon d'arriver à l'égalité. Voilà ce que nous pouvons demander comme grâce au Seigneur. De pouvoir rendre à chaque personne sa dignité, quelle que soit la personne, homme ou femme, riche ou pauvre, natif ou étranger, vaillant ou fatigué. Rendre à chaque personne sa dignité en rendant, comme nous le voulons le faire, à Dieu l'honneur qui lui est dû. À lui tout honneur et toute gloire. Et à nous, l'humilité.